RFI, 7h42, en temps universel. Tout de suite les sports. Avec vous, Baptiste Leduc, le football d'abord, un déplacement piégeux en Tanzanie ce samedi pour le Mouloudia d'Alger, c'est en Ligue des Champions.
C'est pour la dernière journée de phase de groupe. Le club de la capitale algérienne va tenter de confirmer sa qualification en quart de finale sur la pelouse des Young Africans. Le Mouloudia est deuxième du groupe A, mais avec un seul point d'avance sur les Tanzaniens, qui les doublerait donc en cas de victoire. Les Algériens n'ont besoin que d'un nul, mais leur entraîneur Khaled Ben Yahia ne veut rien d'autre que les trois points.
Ça va être un match d'une intensité et d'adversité de bon niveau, que ce soit pour nous ou pour Manéléan. Ça va être un match très difficile, compliqué à jouer, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan technique. Donc, on ne pense pas qu'on va jouer le match nul ou on va essayer de faire jouer et de faire le nécessaire pendant 90 minutes. Je crois qu'on a les moyens de se battre dans ce match et le résultat va venir tout seul avec notre sérieux, notre abnégation et notre façon de jouer.
Khaled Ben Yahia au micro de Sofiane Anani, Young Africans Mouloudia. C'est à 13h en temps universel, comme TP Mazembe contre Al Hilal Omdurman.
En tennis, 11 jabeurs éliminés de l'Open d'Australie, mais qui retrouvent peu à peu des sensations.
La Tunisienne s'est inclinée contre l'Américaine Emma Navarro, 6-4, 3-6, 6-4 au troisième tour à Melbourne. Déception pour 11 jabeurs qui a craqué dans la dernière manche, mais les certitudes reviennent. Sa réaction au micro d'Arthur Franc.
Je trouve que j'ai vraiment essayé de me battre et de rester dans le jeu, mais voilà, elle était la plus forte, surtout au troisième set. Évidemment, ma santé n'était pas au top, et je suis en train de tout faire pour reprendre ça. Mais voilà, je sens que même avec ça, j'ai pu sortir un jeu exceptionnel et je pense qu'il y avait des trucs assez techniques qui se réglera en jouant beaucoup plus de matchs. Bien sûr, ça fait du bien, ça m'encourage, mais voilà, j'espère à faire mieux, je veux faire mieux, forcément, mais en tout, je suis positive sur ça.
11 jabeurs éliminés au troisième tour, mais l'exploit du jour à l'Open d'Australie, il est à mettre à l'actif de Gaël Monfils, le Français de 38 ans qui a surclassé le numéro 4 mondial Taylor Fritz en 4-7, direction les 8e pour Monfils.
Et un mot pour terminer, Baptiste, des championnats du monde de handball, l'Égypte, seule équipe du continent africain à se qualifier pour le tour principal.
Oui, Julien, les Pharaons ont largement battu Bahreïn vendredi 35-24, qualification acquise donc avant même le troisième match contre la Croatie dimanche. L'aventure s'arrêtera dès ce tour préliminaire. En revanche, pour la Guinée, défaite 35-18 par la Hongrie. À suivre ce samedi, un choc entre voisins. L'Algérie, vice-championne d'Afrique en titre, contre la Tunisie à 17h TU. Un match pour l'honneur, puisque les deux sélections sont elles aussi d'ores et déjà éliminées de ce mondial.
Baptiste Leduc, merci beaucoup, bonne journée. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Roy.
Au Congo-Brazzaville, un nouveau grand argentier vient d'entrer au gouvernement et tout le monde semble attendre des miracles de Christian Yoka, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public. Comment expliquer cette attente ?
Cette nomination a remis sous les feux des projecteurs le marasme dans lequel semblent baigner depuis bien trop longtemps les finances du Congo, avec une dette d'autant plus insupportable que ce pays, producteur de pétrole, semble avoir vécu au jour le jour, oubliant d'investir dans des infrastructures convaincantes et de faire des placements rentables. Qu'ont-ils donc fait des bienfaits dont la nature a doté leur patrie, tels qu'ils se présentent aujourd'hui? Le Congo donne l'impression de s'être endetté pour faire la fête, car en dehors du train de vie luxueux et clinquant des privilégiés du pouvoir, peu de réalisations rappellent aux Congolais que leur pays a longtemps figuré au troisième rang des producteurs subsahariens d'or noir. Les signes d'un pays bien géré se perçoivent à travers les écoles construites pour donner une bonne éducation à la jeunesse, à travers les hôpitaux où se soignent les citoyens, et non dans les facilités que s'octroient les dirigeants et leurs clans.
Ces dirigeants ont tout de même réalisé quelques infrastructures, peut-être n'en font-ils pas assez ?
Denis Sassou Nguesso, faut-il le rappeler, dirige le Congo depuis 1979, avec une petite parenthèse démocratique entre 1992 et 1997. Lorsque l'on s'impose aussi longtemps à son peuple, on se doit au moins de satisfaire ses besoins fondamentaux. Beaucoup en Afrique critiquent le régime de Paul Kagame au Rwanda pour ses insuffisances démocratiques. mais tout aussi nombreux sont les Africains qui, ayant découvert son pays, en tout cas la capitale, se disent que ce régime autoritaire se soucie au moins du bien-être de sa population. C'est à cette seule et unique condition que les peuples peuvent tolérer les régimes qui s'éternisent, sans quoi l'on n'a que des dictatures stériles. La jeunesse du continent ne peut plus subir durablement des dirigeants qui ne lui apportent rien ou si peu. Dans son discours d'adieu au peuple américain ce mercredi, Joe Biden a insisté sur les dangers de la concentration du pouvoir politique et économique aux mains d'une oligarchie. Cela est valable pour les États-Unis, cela est aussi pour chaque pays d'Afrique. Au moment où Denis Sassou Nguesso arrivait au pouvoir, le président des États-Unis s'appelait Jimmy Carter. De Carter à Biden, l'actuel chef de l'État congolais aura vu passer 8 présidents des États-Unis et 6 chefs d'État français. La liste de tout ce dont manque le peuple congolais n'a d'égal que le temps passé par ce seul et même homme à leur tête.
Jean-Baptiste, ceci dit, le Congo n'est pas non plus immensément riche.
Il est loin d'être un pays pauvre. Après plus de 40 ans à gérer la manne pétrolière, lorsque l'on vous parle du Congo, l'on n'entend que dettes et quelques maigres infrastructures insuffisantes. La Norvège, par une gestion méticuleuse de son pétrole, a su créer un fonds souverain géré dans la transparence, aujourd'hui le plus important au monde, totalisant l'équivalent de 1 700 milliards d'euros. Ce pays assure une bonne éducation à sa jeunesse, un système de santé efficace pour sa population et réussit des prouesses en matière de transition énergétique et d'innovation. À sa petite échelle, le Congo aurait pu faire de son pétrole un tremplin pour l'avenir de ses enfants. Autre exemple, le Qatar, qui a su tirer profit de ses ressources gazières et pétrolières pour se propulser au rang des pays les plus riches du monde. Il n'est certes pas exemple de critique, mais il a su faire fructifier la manne pétrolière et préparer l'avenir pour les générations futures. En Afrique, le Ghana, qui n'a pas l'immensité des réserves pétrolières du Congo, s'est efforcé par une gestion transparente et responsable de ses ressources naturelles à poser les bases d'une économie plus diversifiée et d'une démocratie irréversible. Le Congo, pour espérer rompre avec le sous-développement intégral, doit commencer par oser le courage de ne pas se tromper de diagnostic.
Merci Jean-Baptiste Placam.
RFI Matin.
Et chaque semaine, RFI vous emmène à la rencontre des journalistes du monde entier menacés, entravés dans l'exercice de leur métier. Dans Menace sur l'information, cette semaine, un procédé bien connu des entreprises pour faire taire la presse. Les procédures bâillons, le principe, lancer des actions en justice pour intimider ou dissuader les journalistes et défenseurs des droits d'enquêter ou de révéler des informations sensibles. Nicolas Feldman.
5 janvier 2017, alors que le journaliste Nicolas Vescovacci est en pleine écriture d'un livre enquête sur l'homme d'affaires Vincent Bolloré, un huissier frappe à sa porte pour lui remettre un courrier.
Je dépiote cette enveloppe et je vois sur la troisième page un montant, 700 000 euros, plus 50 000 euros. Et je me dis, mais de quoi s'agit-il ? Vivendi m'accusait d'avoir mis en péril la bonne marche de l'entreprise à travers des SMS et des mails que j'avais envoyés pour faire simplement mon travail, c'est-à-dire le contradictoire dans une enquête. Et il me réclamait 750 000 euros de dommages et intérêts.
Dans ce dossier, le groupe Vivendi sera finalement condamné pour procédure abusive. Mais l'homme d'affaires et ses sociétés vont engager 2 autres actions en diffamation, celle-ci contre les auteurs du livre, avant de se désister à quelques semaines de l'audience.
Au final, Vivendi ou Vincent Bolloré a tenté 3 procédures contre moi. 3 procédures, ça veut dire quasiment 6 à 7 ans de pression judiciaire sur vos épaules et des coûts financiers de plusieurs milliers d'euros. C'est ça une procédure bâillon. C'est une intimidation concrète et précise sur un journaliste, un journal, une maison d'édition. C'est faire peur pour que les autres ne s'engagent pas sur l'enquête. Et Vincent Bolloré est un adepte des procédures bâillons.
Contacté, l'avocat de Vincent Bolloré n'a pas répondu à cette affirmation. Toujours est-il que ce type de procédure se multiplie, observe Nicolas Vescovacci, par ailleurs membre du collectif de journalistes Informés n'est pas un délit.
On n'imagine pas le nombre de procédures qui sont intentées pour des journalistes qui enquêtent par exemple en Bretagne sur le système agroalimentaire français. tout ça pour limiter la sortie d'informations qui sont d'intérêt général.
C'est justement pour limiter le recours à ces procédures judiciaires abusives qu'une directive européenne a été adoptée en mars 2024. Didier Lec, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de la presse.
Il y a maintenant une directive européenne qui vise à mettre un certain nombre de dispositifs de protection pour ce qui est des procédures les plus abusives. Par exemple, que celui qui a initié la procédure supporte les frais de justice et puis qu'il soit condamné à couvrir les frais de procédure, pour que celui qui tente de bâillonner, pour reprendre l'expression, ait lui-même à gérer une petite prise de risque.
Encore faut-il que les États membres de l'UE transposent cette directive européenne dans leur droit national. Ils ont jusqu'à 2026 pour le faire. Certains avocats pointent déjà les limites de ce texte, puisqu'il ne concerne pour le moment que les actions en justice lancées devant des tribunaux civils et non celles engagées au pénal, qui représentent pourtant l'écrasante majorité de ces procédures bâillons.
Nicolas Feldman pour Menace sur l'information. Bientôt 8h en temps universel, RFI Matin touche à sa fin dans moins de 10 minutes. Mais d'abord un nouvel épisode d'Un mot, une histoire avec Lucie Bouteloup. On découvre chaque semaine un mot francophone à travers le témoignage des amoureux de la langue française.
J'ai remarqué que je l'utilise beaucoup en fait dans mes textes. Si j'essayais de reprendre ça en créole haïtien, par exemple, je pourrais dire de l'eau la vie, vous voyez, l'eau de la vie, littéralement.
Pour lui, l'écriture, c'est comme un torrent intérieur, un flot qui jaillit et qui peut prendre toutes les formes. Poète, romancier, mais aussi dramaturge, il a d'ailleurs remporté le prix RFI Théâtre pour sa pièce Opéra Poussière, l'haïtien Jean d'Amérique déploie à nouveau sa poésie et il revient cette fois avec un album « Pansement de lumière ». Je l'ai rencontré après une performance organisée par la Maison de la Poésie à Paris et il a choisi pour cet épisode de me parler d'un mot synonyme de lumière et de vitalité.
Un mot, une histoire. Lucie Bouteloup.
Moi j'ai envie de vous parler de sève. C'est un mot déjà qui sonne d'une manière particulière. Je l'aime pour sa musique, sa résonance. Il me fait vibrer quand je le prononce. Ah, j'ai envie de le redire. Sève, sève, sève. Comme une incantation. Moi, je suis très attaché à la musique des mots. Quand j'écris, il y a un rythme qui se met en marche. Des fois, je dis mes textes à haute voix pour moi-même. Parce que quand je prononce un mot, j'appelle toutes ces possibilités de musique. J'aime ce mot parce que c'est la flamme intérieure, c'est le sang qui garde vivant, c'est le feu qui tient debout. En fait, la sève, ça vient de l'arbre, donc c'est la vie, en fait.
La sève, c'est cet élan de vie, comme vous venez de le dire. Et puis, on pense aussi à la sève qui irrigue peut-être votre inspiration.
Les mots sont ma sève, en quelque sorte, parce que je travaille avec. Et puis, oui, l'inspiration qui vient de la vie, pour moi, parce que j'écris ancré dans le réel. Et la sève des mots aussi, c'est ce qui va nourrir notre esprit. Voilà, ça va germer de nouvelles choses et faire fleurir nos consciences et nous donner de bons fruits, des fruits de lumière.
Je veux un pansement de lumière pour effacer mes entailles.
Qu'est-ce que ce mot sève dit de vous, Jean d'Amérique ?
Je suis quelqu'un qui est très intérieur. Vous voyez, la sève, c'est quelque chose qui te nourrit à l'intérieur et qui te fait respirer, qui te fait tenir debout. Et du coup, dans tout ce que j'écris, je sens que ça passe par mon corps, ça passe par mes veines. Je sens mon sang en mouvement. Et du coup, les mots que je vais utiliser doivent être chargés de cette force-là. Je n'écris pas juste pour écrire. Ce que je partage, je dois m'assurer que ça peut nourrir les gens et faire grandir leurs arbres de vie.
Selon le Trésor de la langue française, le mot sève définit le milieu intérieur fluide des plantes vasculaires dotées d'un double appareil circulatoire et qui assurent leur nutrition et leur croissance. Au sens figuré, la sève désigne également l'élan vital.
C'était un mot, une histoire. Lucie Bouteloup avec Jean d'Amérique qui a donc sorti il y a quelques semaines son album « Pansement de lumière ». et un peu de musique avant le journal et avant de se dire au revoir avec une jeune pépite française de retour. Son premier album s'était classé en tête des ventes jazz en France. Le deuxième sortira en février. Gabi Hartmann et son nouveau titre Take a Swing at the Moon.
What's the use of us arguing? Won't you let me sing you a tune? All night long you've been thundering. You would take a swing at the moon. Another dream goes to your head, another thing you think I said. But just don't look into the past for very long. So say goodbye to everyone who ever looked to the sun. You know it didn't last for long.
Take a Swing at the Moon, extrait du prochain album de Gabi Hartmann, c'est à retrouver dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Et RFI Matin touche à sa fin pour aujourd'hui. Merci à Jean-Pierre Pellon à la réalisation de ces 3 heures. On se retrouve demain à partir de 5h, temps universel. Et d'ici là, l'info continue. Très bonne journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Tout à l'heure sur RFI, le grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique, Bruno Faure.
Nous recevons le patron des patrons du Cameroun, Célestin Tawamba, fondateur d'un grand groupe dans l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Engagé pour le développement de son pays et de ses entreprises, il appelle à des réformes profondes de la gouvernance en Afrique.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.